franceinter.fr.
L'heure de la revue de presse, bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
Aujourd'hui Hélène, c'est vendredi.
Oui, en fait c'est pas ça l'info, c'était histoire de vous dire que le vendredi on peut peut-être respirer, profiter et pourquoi pas en profiter pour vous plonger dans de longs, parfois de très longs articles mais qui vraiment valent le coup. Alors un portrait ce matin et des photos. Le portrait d'abord dans le magazine Books de Monsieur Xi, l'homme le plus puissant du monde. Xi Jinping, le président chinois évidemment. 20 pages, je vous avais prévenu c'est long, écrite par l'ancien correspondant en Chine du New Yorker. 20 pages pour découvrir le parcours de celui qui n'était avant son intronisation en 2012 que le mari de sa femme, une vedette de la chanson, un homme qui avait l'air un petit peu abruti, paraît-il, mais qui s'est arrogé depuis plus de pouvoir que tous ses prédécesseurs depuis Mao. Au nom de la lutte contre la corruption, Xi Jinping détient aujourd'hui l'autorité suprême sur chaque général, écrit le journaliste, chaque juge, chaque rédacteur en chef, chaque PDG d'entreprise nationale. Un monsieur Xi qui affiche une hostilité sans ambiguïté envers les idées démocratiques et qui conçoit l'essence de son projet en termes de sauvetage. Il faut sauver la République populaire de Chine et le parti avant qu'il ne soit submergé, notamment par les tensions qu'engendre une économie dont on a vu ces derniers jours combien elle pouvait être fragile. Xi Jinping a connu personnellement et politiquement le meilleur et le pire du parti, est-il raconté. Son père, ministre de la propagande puis vice-ministre de Mao, a été envoyé en usine sous la révolution culturelle. Mais M. Xi n'a qu'une peur, qu'une hantise, subir ce que l'ex-URSS a connu, l'effondrement. Et c'est donc pour tenter d'échapper à un tel destin qu'il resserre toujours un peu plus aujourd'hui l'étau des libertés dans son pays et qu'il a fait emprisonner des centaines de milliers de fonctionnaires.
Voilà pour le portrait, Hélène. Vous nous avez également promis des photos.
Oui, celles à découvrir dans Polka Magazine avec un article en particulier. Une photo peut-elle changer le monde? En août 2012, Barack Obama, réticent à toute intervention dans le conflit syrien, déclarait « Si nous commencions à voir des quantités d'armes chimiques, cela changerait mon équation ». Eh bien, l'existence d'armes chimiques, ce sont les photos de Laurent van der Stockt qui en ont apporté la preuve en les publiant à la Une du Monde en mai 2013. Alors, elles n'ont pas modifié l'équation du président américain qui n'a rien fait. Ce fut un coup dur, reconnaît le photographe, mais peu importe, un jour, elles serviront peut-être à faire juger Bachar el-Assad. Et puis, ces clichés participent du processus démocratique et de sensibiliser l'opinion pour éventuellement faire pression sur les dirigeants. On se souvient bien sûr de cette célébrissime photo de cette petite fille nue fuyant une attaque au napalm au Vietnam qui avait rendu impopulaire auprès des Américains le conflit. Alors aujourd'hui, la crise de la presse change la donne. Du coup, des photographes tentent de s'adresser directement aux décideurs, par exemple en organisant des expos dans l'enceinte du Sénat à Washington. Et parfois ça marche. Le travail de Stéphanie Sinclair, par exemple, sur les mariages infantiles, a poussé les États-Unis et l'ONU à se mobiliser enfin sur la question.
On revient en France, Hélène, avec notamment l'actualité politique.
Avec un amusant bestiaire, si l'on s'en tient au titre, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan qui s'exclame « Nous sommes gouvernés par des limaces » dans le Figaro, quand l'humanité s'indigne à sa une des requins du MEDEF qui n'en ont jamais assez. Mais surtout, on a Macron. Il n'y en a que pour lui, on en a encore longuement parlé aujourd'hui à 8h, et c'est l'éditorialiste des Échos, Cécile Cornudet, qui prend tout le monde à revers aujourd'hui sur le ministre de l'économie. Et si c'était le vrai frondeur, se demande-t-elle ingénument. C'est lui, le vrai dynamiteur du système, dit-elle. Pas besoin d'ouvrir la bouche pour faire polémique, on voit son influence partout. Mais ni surenchère, ni aigreur, ni transgression marketée, comme le faisait en son temps Manuel Valls, il se contente d'être, être hors code, libre. En 12 mois, conclut-elle, il a donné un formidable coup de vieux à la politique.
Un mot de l'actualité à gauche, puisque, et de deux, on vient d'apprendre que après François de Rugy, Jean-Vincent Placé annonce qu'il claque à son tour la porte d'Europe Écologie Les Verts. C'est le président du groupe écologiste au Sénat. On reste dans la politique et dans la thématique conflit de génération.
Oui, car s'il y en a bien une qui a tué le père, ou en tout cas qui tente de le faire, c'est elle. Dans une interview exclusive accordée au Figaro Magazine, Marine Le Pen ne dévie pas d'un iota de sa ligne entre le parti et son père. Elle a choisi, dit-elle, l'intérêt général du Front National. Elle concède dans une phrase que ce sont pour elle des événements douloureux, mais à lui la faute, accuse-t-elle. C'est lui qui s'est mis lui-même en dehors du parti en refusant la transmission. Alors les mots sont durs, définitifs. Une candidature de Jean-Marie Le Pen en 2017, je n'ai pas envie de le voir terminer sa carrière de manière pathétique, assène-t-elle. Et puis un coup de patte en passant à sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, qui avait jugé que ce n'était sans doute pas le moment de procéder à l'exclusion de son grand-père. Elle n'est pas membre du bureau exécutif, rétorque sa tante. Elle n'a donc pas la lourde responsabilité d'avoir à prendre une telle décision. Non mais enfin, c'est qui la chef ?
La presse revient également ce matin, Hélène, sur la tragique découverte d'hier, ces cadavres de migrants retrouvés dans un camion en Autriche.
Le camion de la honte, titre Libération, qui rappelle que c'est le drame le plus grave survenu en Europe depuis juin 2000. Un drame qui met la lumière sur la situation en Autriche, un pays qui doit faire face cette année à 80 000 demandes d'asile. Et des fractures peut-être plus vives qu'ailleurs entre ceux qui rappellent leur tradition d'accueil et ceux chez qui les drames successifs ne font que provoquer une réaction de repli. Et puis ça pourrait s'aggraver, ajoute Libération, car lorsque la Hongrie voisine aura terminé son mur à la frontière serbe, les migrants changeront de parcours. Ils vont devoir passer par la Carinthie et c'est l'ancien fief du néo-nazi Jörg Haider, une province qui croule aujourd'hui sous les dettes et où l'extrême droite est à nouveau numéro 1 dans les sondages.
On termine par un reportage stupéfiant.
Stupéfiant, c'est le mot, Patrick. C'est l'Obs qui dévoile que ça deal à l'hôpital psychiatrique en particulier. Le journaliste Thibaut Petit raconte qu'à Nantes, à Brest, les dealers sont là, dans les murs ou dans les parcs. Au relayage de Sainte-Anne à Paris, la bien nommée cafétéria, les malades peuvent acheter du shit, de la cocaïne, de l'héroïne et certains patients sont évidemment accros, plus vulnérables que d'autres. Alors attention, ça n'a rien à voir avec les éventuelles vertus antidouleurs du cannabis plaidées par certains. Là, les patients sont des dépressifs, des bipolaires, des schizophrènes et de telles drogues aggravent leur pathologie. Mais alors que faire ? Les médecins sont divisés sur la question, entre réticence à faire appel aux forces de l'ordre et à dénoncer leurs propres patients et volonté de ne pas laisser les hôpitaux devenir des zones de non-droit, on les sent tout simplement désarmés.
Hélène Jouan, merci pour cette revue de presse.